A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par Unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission.
Victor, on va passer au match de ce samedi. Ça y est, les playoffs ont commencé. On ne va pas se mentir, pour l'instant, ça n'a pas été vraiment... des matchs extrêmement serrés. On va les prendre dans l'ordre chronologique, si tu veux bien. On va commencer par les Texans qui ont explosé les Browns à Houston. Une victoire 45-14 qui ne souffre d'aucune contestation. Les locaux ont pris les devants rapidement avant de se faire reprendre. Au début du deuxième quart-temps, ils étaient menés 14-10. Sauf que dans la foulée, ils ont complètement déroulé. Ils ont passé un 35-0 à leurs adversaires. 35 points inscrits, aucun point encaissé. Résultat, une victoire très large. Victor, on pensait qu'il allait avoir un match entre ces deux équipes. On rappelle, les Browns, ils avaient un meilleur bilan que les Texans. Et les Texans recevaient ce match, on va dire, uniquement à la faveur du fait d'avoir gagné cette AFC Sud. Et pourtant, il n'y a quasiment eu aucun match.
Oh, je te trouve dur. Je te trouve dur. Il y a eu un match pendant deux quarts-temps et demi, quasiment trois quarts-temps. Non, à la mi-temps, il y a combien? Il y a 17-14. Il y a 17-14 à la mi-temps. Non, il y a eu un match pendant deux quarts-temps et demi, trois quarts-temps, et il y a eu cet enchaînement pick-six de Joe Flacco qui a tué le match, clairement. Là, à la fin du troisième quart-temps, vous pouviez aller dormir, c'était fini. C'est d'ailleurs ce que je suis allé faire. Pour le coup, non, il y a eu un match quand même pendant plus d'une mi-temps, mais il y a une équipe qui a craqué là où l'autre est restée tout le match sérieux de la minute 1 à la minute 60.
Alors là où je ne suis pas particulièrement d'accord avec toi, c'est vrai que sur le résultat, il y avait un match. Sur le score, il y avait un match. Tu as annoncé le score à la mi-temps. Il y a eu ces deux pick-six. Mais j'ai trouvé tout de même qu'après le touchdown qui permet aux Browns de passer devant, il n'y a plus grand-chose. Et c'est vrai qu'on s'est dit, pour moi, en tout cas, ce n'était qu'une question de temps pour voir Houston s'emparer de ce match et prendre les devants. Et ça a été de pire en pire. En effet, on regarde les statistiques, mais il y a un joueur dont il faut absolument qu'on parle et dont on va parler en premier, c'est CJ Stroud. Il est à 16 sur 21, 273 yards, 3 touchdowns. Ce ne sont pas des statistiques incroyables, mais c'est un quarterback rookie qui fait une bonne saison régulière. Sauf qu'on sait, les playoffs, c'est différent. Et quand on le voit arriver en playoffs, on voit que sur le moment, il n'y a pas de moment, comme disent les Américains, il n'y a pas de moment plus grand que ça. Et pourtant, il a assumé. Je dis des stats extraordinaires parce que quand on imagine d'autres quarterbacks qui peuvent sortir des matchs incroyables, là, 273 yards, c'est correct. Mais par contre, il fait un match superbe, CJ Stroud.
Ah, t'es dur. Si, c'est extraordinaire ce qu'il
non,
a fait.
Non, mais ce qu'il a fait est extraordinaire. Mais je veux dire, les statistiques, 16 sur 21, oui. 273 yards, si j'annonce ça comme ça, c'est vrai qu'on ne se dit pas que c'est un quarterback qui a marché sur tout le monde. Mais par contre, quand on regarde le match, quand on regarde le moment, quand on sait l'âge qu'il a, le manque d'expérience à ce niveau-là, par définition, qu'il a, c'est tout simplement extraordinaire.
Et en plus, il loupe un touchdown quasiment tout fait de 60 yards parce qu'il surdose une petite passe pour Nico Collins. Écoute, on manque de superlatifs pour ce joueur. C'est absolument extraordinaire. On avait l'impression de voir un vétéran qui est là depuis 15 ans, qui panique pas, qui va toujours trouver la bonne solution, qui va varier entre passes profondes, passes intermédiaires, passes courtes, passes OB. C'est globalement toujours bien construit. On en reparlera là encore dans les coachs, mais un design offensif du coordinateur Slovic incroyable aussi, il faut le dire, parce que si les joueurs performent, c'est aussi parce que le schéma est magnifiquement construit. Mais Stroud, écoute, honnêtement, il y avait un calme qui était absolument incroyable pour un joueur rookie.
Ouais, c'est ça qui est impressionnant, en fait. C'est le fait de se dire, bah, c'est le premier match qu'il fait à ce niveau-là. Alors oui, il a eu une carrière universitaire, mais on le sait, c'est jamais la même chose. Oui, il a été bon en saison régulière, je l'ai dit, mais ce n'est jamais la même chose. Il arrive en play-off sur son premier match, il sait qu'il est attendu face à une bonne équipe et surtout une bonne défense, parce qu'on en parlera, mais à la base, c'est une très bonne défense. Et comme tu le dis, il a parfaitement géré, bien aidé par Nico Collins et par Devin Singletary notamment. Mais cette attaque-là, tu en as parlé, elle a performé 45 points. Elle a performé parfaitement au moment où on l'attendait, au moment où il fallait.
Oui, alors 31 points offensifs si on enlève des pick six, mais je veux dire, c'est ils affrontaient la meilleure défense de la ligue. Malgré tout, alors explosion de Nico Collins cette saison, tout ce qu'on veut, oui. Mais bon, malgré tout, ses receveurs, c'est Nico Collins, Noah Brown et John Metchie, son tight end, c'est Dalton Schultz. Il y a pire, mais enfin, il y a mieux. Et il a réussi littéralement en une mi-temps à mettre plus de yards aux Browns que ce qu'ils prennent d'habitude en un match. C'est pour ça, quand tu dis les stats ne sont pas impressionnantes, il faut aussi se rappeler qu'en deuxième période, il lève le pied totalement, quoi. Parce qu'il doit déjà être quasiment à 250 yards à la mi-temps, j'exagère à peine. Et c'est vrai que globalement, bah, cette équipe, elle est juste absolument incroyable. Et en plus, on a vraiment l'impression d'une sorte de communion où tous les joueurs sont meilleurs, en fait. Singletary, oui. Là, on l'a jamais vu comme ça. Il était virevoltant. Il y avait du LeSean McCoy 2013 chez Singletary. Là, c'était incroyable.
Oui, oui, c'est vrai que cette attaque, elle est particulièrement incroyable. Notamment dans le chat, on parle de Laremy Tunsil aussi qui a sorti une masterclass sur Myles Garrett. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu. On parlera de cette défense des Browns tout à l'heure qui a été décevante. Mais une défense qui ne l'a pas été décevante, c'est celle des Texans aussi. Parce que forcément, on parle beaucoup de cette attaque-là. Mais la défense, elle encaisse. Alors, elle encaisse plus de 300 yards, mais ils ont surtout limité les gros jeux face aux Browns. On se rappelle, hein, ils ont joué cette équipe il n'y a pas si longtemps en saison régulière, et Amari Cooper, il avait gagné 225 yards. Là, il a été muselé avec 4 réceptions pour 59 yards. Il y a des joueurs défensifs qui sortent du lot. Il y a Will Anderson, il y a Derek Stingley, les rookies. Il y a aussi un énorme match de Christian Harris. Tu parlais de joueurs qui sont en communion et qui progressent. On a un Desmond King qui n'a pas toujours été en odeur de sainteté dans cette NFL, qui est là, qui est pour le coup très bon. Il y a Derek Barnett qui joue pas beaucoup à Philadelphia, qui est bon. Toute cette défense-là aussi, elle s'est mise au niveau play-off, on a l'impression.
C'est ça, surtout en deuxième mi-temps, c'était assez, assez fou. Et en fait, cette draft de Stroud, de Anderson, et puis même de Tank Dell, de Christian Harris et tout, des drafts des 2-3 dernières années, même de Jalen Pitre et tout, elles ont peut-être construit un mastodonte pour les 10 prochaines années en AFC, parce que tout le monde est bon. Christian Harris, c'était un talent du premier tour, qui est descendu au troisième, notamment pour des pépins physiques, pas tellement sur son talent. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Et puis, tu te dis, en fait, tout le monde adhère dans cette équipe. Derek Barnett, c'est symptomatique. Ces joueurs, il était plus bon dans son équipe. Non pas qu'il manquait de talent, mais il avait plus la confiance des coachs, il avait plus confiance en lui-même, etc., etc. Il change d'environnement. Il change d'équipe. Dans un air frais, avec des mecs qui disent « on croit en toi » et tout, bam, direct, il redevient impactant. Et c'est fondamental, en fait. Quand on dit « le groupe vit bien », je ne sais pas s'il y a un groupe qui vit mieux que les Texans aujourd'hui. C'est littéralement « tous les joueurs montent de niveau ». Et là, on les a vus. Enfin, ils se sont battus sur chaque action, même quand le receveur avait pris l'avantage. Tu vois le défenseur qui fait l'effort maximum pour aller toucher du bout du doigt le ballon ou autre, pour venir contacter et tout. C'est une équipe qui en veut. C'est une équipe qui est en mission. Et en plus, quand tu regardes globalement l'effectif, bah, la moitié, c'est des tout petits jeunes, en fait, qui sont en contrat rookie et qui vont que progresser.
Oui, parce que tout cela, alors la saison n'est surtout pas terminée pour les Texans, ils vont avoir un match, mais tout cela donne en effet de bons signes pour la saison d'après. Ça donne aussi certainement l'envie aux free agents de venir. Et puis si on imagine, on a vu les Texans bien draftés, on imagine qu'ils peuvent continuer à le faire. Alors ils ne drafteront peut-être pas aussi haut chaque année, vu ce qui est en train de se passer au niveau des résultats. Mais bon, s'ils peuvent bien drafter, ils peuvent le faire sur plusieurs saisons. Et en effet, dans le chat, hein, tout le monde apprécie la performance, notamment défensive. Il y a Flo Riders qui dit Blake Cashman, le linebacker des Texans aussi a été très fort. Il y a Erko Npage qui nous dit qu'il aurait vu les Texans en divisional round en début de saison. Alors j'ai envie de dire toi Victor, mais il y a 2 ans, c'est toi.
J'avais un an d'avance. Voilà, j'avais un an d'avance, c'est tout. Mais par contre sur l'attractivité, juste t'as raison, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais Houston c'est la troisième ville des États-Unis, la troisième agglomération des États-Unis, donc c'est quand même très important. C'est dans le Texas, donc fiscalement c'est intéressant. Donc même si les Texans sont pas forcément l'équipe la plus flashy de l'histoire de la NFL, faut dire que c'est la plus récente, hein, ils sont là que depuis 20 ans. Ils ont tout pour attirer des joueurs. Et maintenant ils ont l'équipe, ils ont l'organisation, ils ont l'État, ils ont la ville. Oui, il y a un truc pour construire quelque chose de grand.
D'ailleurs, il y avait un classement, hein, cette saison, je ne me rappelle plus exactement du classement, il y a un classement cette saison qui annonçait les équipes et les endroits où les joueurs préféraient jouer. Et à mon avis, Houston ne devait pas être si mal classé que ça. Si vous pouvez peut-être le retrouver dans le chat, n'hésitez pas, mais c'est vrai qu'à mon avis, Houston devait être assez haut, et vu ce qui se passe, ça devait l'être aussi. Et dernier mot sur Houston avant de passer sur Cleveland, mais ça ne comptera pas. Pour la saison régulière, pour le titre de coach de l'année. Mais D'Amico Ryans, quand on voit son équipe, comment elle performe, il est clairement candidat au titre de coach de l'année. Alors encore une fois, ce match-là ne doit pas compter, c'est uniquement la saison régulière. Mais ça ne fait que prouver que c'est un très bon coach.
Je ne sais pas s'ils ont déjà voté. Tu penses qu'ils ont déjà voté?
Je ne suis pas sûr en tout cas que les playoffs doivent être pris en compte.
Théoriquement, ça ne doit pas être pris en compte.
Ah, tu mises sur une théorie du... l'inconscient.
Ma question, c'est est-ce qu'ils ont voté ou pas ? Parce que moi, je suis désolé, mais tu vois, j'avais un doute. Je serais votant là. Je sais que les playoffs ne doivent pas compter, mais ça me permet de lever mon doute et de mettre D'Amico Ryans.
Surtout que peut-être le doute pouvait être avec Kevin Stefanski qui était en face et qui, pour le coup.
Ouais, donc, après Stefanski, il en a déjà eu un.
Ouais, non, mais bon, en tout cas, quand on prend la saison régulière, il amène son équipe en playoff avec 11 victoires et avec beaucoup de blessés. Il va être certainement dans la liste des causes de l'année. Donc c'est vrai que s'il y avait un doute, je ne sais pas s'ils ont déjà voté.
Ben, on verra et on croise les doigts pour que je puisse vous faire vivre ça en live. On ne sait pas encore, mais on verra peut-être.
Voilà. En tout cas. Pour Cleveland, on va en parler rapidement, mais c'est peut-être le pire scénario parce qu'on le sait, Flacco, c'est un joueur qui tente beaucoup de choses. Quand ça passe, c'est incroyable, on l'a vu sur ces dernières semaines. Quand ça passe pas, ça donne des matchs un petit peu compliqués, voire beaucoup plus compliqués. Alors, il dépasse les 300 yards sur ce match. 34 passes réussies sur 46 tentées, un touchdown, 2 interceptions. Mais tu l'as dit, ces 2 interceptions, elles font tâche, ces 2 pick-6 qui font basculer totalement le match.
Oui, en fait, cette équipe de Cleveland est dans un état un peu étonnant. C'est-à-dire que, en soi, dans l'idée, tu te dis, ouais, je vais récupérer tous mes blessés, parce qu'on rappelle qu'ils avaient une panette de blessés. Ça ne s'imitait pas au quarterback, hein. Nick Chubb, le running back, leur left tackle, ils ont des blessés partout. Et tu te dis, j'ai une défense qui est top 5 de NFL, j'ai une attaque où j'ai des armes et tout, c'est super. C'est vrai que c'est super. Après, je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de masse salariale et ils n'ont pas de pic de draft parce qu'ils restent, malgré tout, même s'il y a de quoi être optimiste, ils restent enfermés, bloqués, emprisonnés par le contrat d'Eshaun Watson. Et globalement, on va revenir en début de saison prochaine exactement là où on était en début de saison cette année. C'est de dire, il y a un bon groupe, mais s'ils veulent aller plus loin, il faut que Deshaun Watson redevienne franchise quarterback. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un an pour rien. C'est une sorte de parenthèse enchantée parce que les joueurs ont bien performé. Ça a permis aux fans de rêver d'avoir un match de playoff. Ce n'est pas négligeable. Tout le monde n'a pas un match de playoff et c'est super pour eux. Mais sur le long terme, j'ai l'impression qu'on en est exactement à la même position. Et en plus, on a une défense qui a été extraordinaire toute l'année. Mais qui là s'est troué littéralement toute la soirée et finir là-dessus, ça fait tâche.
Oui, on n'a pas beaucoup vu en effet Myles Garrett qui a bien été défendu. Et tu l'as dit, c'est vrai qu'on a l'impression de revenir un an en arrière et il va falloir que Deshaun Watson redevienne le quarterback, le franchise quarterback qu'on connaît. Sauf que ça fait quand même déjà un moment qu'on n'a plus vu un Deshaun Watson au niveau qu'il était à Houston notamment. Ce qui permet en effet de clôturer en disant que tu disais qu'il n'avait plus de choix de draft parce qu'il y avait ce contrat de Deshaun Watson, choix de draft qui sont partis à Houston, je
Je crois
crois.
qu'il y a encore le premier et troisième de cette année, si je ne dis pas de bêtises. Premier
Donc,
tour et troisième tour.
Houston, en plus, en battant les Browns, fait une belle opération
Ouais, c'est ça.
avec la prochaine draft. Voilà, pour terminer juste sur ce match-là, la suite pour Houston, elle n'est pas encore définie. Il faut attendre le prochain match de Buffalo et de Pittsburgh, parce que si Buffalo gagne, Houston ira à Baltimore la semaine prochaine. En revanche, si Buffalo perd et que les Steelers s'imposent, ce sont eux qui iront à Baltimore et eux, Houston devra aller, ils devront aller à Kansas City pour jouer face aux Chiefs. Justement, les Chiefs, on en parle, ils recevaient Miami dans le deuxième match de cette soirée. Une victoire des Chiefs 26-7. Il y a eu deux touchdowns pour Kansas City, un en début de match et un en fin de partie. Entre-temps, il y a eu quatre field goals, ce qui a permis aux Chiefs de l'emporter. Ils ont surtout impressionné par leur défense, Victor. Mais ce match, avant toute chose, il a été marqué par un froid polaire, moins 20 degrés à l'Arrowhead. C'est le quatrième match le plus froid de l'histoire de la NFL. Forcément, avant de parler de ces deux équipes, ça a eu un impact sur le jeu.
Ah bah c'est sûr, moi j'aurais pas aimé être à ces joueurs. Hein. Globalement, quand tu te prends un coup, quand tu tombes sur le terrain, bah l'herbe, elle n'est pas vraiment là pour te soulager, quoi. Donc c'est sûr que toi qui es dans le rugby, tu dois connaître ces circonstances-là. Les joueurs t'en parlent sûrement,
Oui, alors je te rassure,
mais.
à Toulon, moins 20, je pense qu'il faudrait que je regarde les livres d'histoire, mais je suis pas
Non, mais
sûr
vous
que.
avez bien des matchs en Angleterre où j'en sais
Oui.
rien
Oui.
qui peuvent aller. Voilà. Mais c'est vrai que bah, c'était difficile. Après, on a quand même senti, il y a toujours ce semi-mythe de l'avantage à domicile quand il fait froid. Alors, mythe qui marche pour certaines équipes et pas pour d'autres. Hein. On pense à Green Bay qui a perdu deux fois dans le froid contre San Francisco. Mais pour le coup, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une équipe que ça gênait moins que l'autre. C'était quand même assez flagrant sur ce match. Il y avait un quarterback que ça gênait moins que l'autre, hein. Parce que le plus gros problème de Mahomes dans ce match, ça a été plus les drops de Travis Kelce que le froid.
Bien sûr.
Mais par contre, il a été littéralement frigorifié.
Oui, tu l'as dit, ce sont les Chiefs qui se sont mieux sortis dans cette situation. Ils ont mis les mêmes ingrédients, on a envie de dire que depuis le début de la saison, ils ont eu de la défense, beaucoup de défense. C'est juste ce qu'il faut d'attaque pour remporter le match. C'est la première fois que les Dolphins sont sous la barre des 13 points cette saison. Les Chiefs, ils ont été très impressionnants en défense, comme ils le sont depuis le début de la saison, mais ils l'ont encore montré en playoff hier soir.
C'est une constante de cette saison. Cette équipe est devenue une équipe défensive. C'était impressionnant. C'était organisé. C'était presque cruel à quel point ils arrivaient à lire. Parce que normalement, l'attaque de Miami, c'est quand même l'attaque imprévisible par nature, celle qui te fait des motions dans tous les sens. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai pas compris, etc. Ils se sont échangés 18 fois le ballon. Je sais plus s'il est à droite, à gauche. Là, tu avais l'impression qu'ils avaient juste tout lu en amont. Et tu avais un sentiment d'impuissance, en fait, de l'attaque des Dolphins, tellement cette défense de Kansas City semblait voir le futur.
Et pourtant, on l'a dit, l'attaque des Dolphins a été un petit peu en dedans lors des deux dernières semaines face à Buffalo et face à Baltimore. Mais on le disait que c'était surtout notamment impacté par les absences de Jalen Waddle et les absences de Raheem Mostert. Là, les deux joueurs étaient là. Alors certes, il y avait le froid. Certes, ils n'étaient peut-être pas à 100%. Mais c'est vrai que même avec ces joueurs-là, même avec l'attaque au complet, elle n'a rien pu faire, mis à part hein, une longue passe et encore une très belle passe sur Tyreek Hill qui donne le seul touchdown de la partie. Au-delà de ça, c'était quasiment le néant.
Et pas ce méga sous-dosé qui réceptionnait uniquement parce que Tyreek Hill, en se faisant agripper, arrive à récupérer le ballon, à se débarrasser de deux défenseurs et à aller dans la end zone.
Alors, à sa défense, il y avait peut-être un peu de vent qui était annoncé aussi. Et c'est sur vrai. Les longues passes comme ça, ça peut sous-doser les passes. Je ne sais pas dans quel sens c'était le vent.
Totalement valide comme point. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que la grosse action, elle a été faite par Tyreek Hill, à mon sens.
Oui.
Non, mais en fait, moi, ce qui m'a plus étonné au niveau de Tua, c'est son imprécision sur les passes courtes, en fait. C'est-à-dire qu'on sait, le jeu des Dolphins, c'est pas que des longs passes, c'est aussi beaucoup de screens, de bubbles, de petites passes pour Tyreek Hill et Jalen Waddle et vas-y, cours, quoi. Même ça, c'était un peu trop à droite, un peu trop à gauche. Les joueurs sont obligés de se contorsionner pour la réceptionner et du coup, ils peuvent pas avancer et tout. Globalement, alors le problème, c'est que c'est encore une fois, avec cette météo, c'est difficile de l'enterrer pour un mauvais match dans ces conditions météo. Mais pour la confiance de Tua dans l'avenir, cette performance, elle fait un peu mal.
Alors, c'est vrai que la confiance, et c'est vrai que Tua n'a pas été grandiose, loin de là. J'ai trouvé aussi le play call un peu particulier. Alors oui, il y a les conditions qui font que ça n'aide pas et ça réduit certainement le cahier de jeu. Mais c'est vrai qu'il va falloir revoir ce match peut-être et se poser les bonnes questions vis-à-vis de Mike McDaniel. Alors, je ne dis pas qu'il est en danger, loin
Mike
de là.
Mike McDaniel, sur les équipes en play-off, il est à une victoire, 6 défaites et moins 110 points de différentiel.
Ouais, et cette victoire, c'est face aux Cowboys sur un field goal de la gagne à la dernière seconde. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on a dit toute l'année sur les Dolphins. Ils avaient perdu face aux Chiefs, ils avaient perdu face aux Bills, aux Ravens, aux Eagles. J'en oublie peut-être, ils ont perdu deux fois face aux Bills. Et c'est vrai que là, ils ont montré qu'ils n'étaient pas au niveau des playoffs. Je ne sais pas comment ça se règle, je ne sais pas si ça se règle, s'il faut amener des joueurs d'expérience. Là, ils ont pris de l'expérience collective, en tout cas, ça c'est sûr. Ce n'est pas forcément la meilleure qu'ils auraient espéré, mais en tout cas, ils l'ont prise. Il faut peut-être amener des joueurs d'expérience, mais c'est vrai qu'il va falloir se poser les bonnes questions sur les années qui arrivent, parce qu'il y a du talent dans cette équipe.
Il y a du talent en attaque. Après, en défense, il va falloir que l'année 1 de Fangio n'est pas bonne. Il y a un moment, il faut le dire. Mais en même temps, une année 1 pour un coordinateur défensif, ce n'est jamais évident. Bon, ils vont récupérer tous leurs blessés, hein, puisque à leur... quand même, il faut le dire, tu avais littéralement la moitié des titulaires de Dolphins qui étaient blessés. Donc, ils vont récupérer des ressources, mais il va quand même falloir investir et trouver un schéma qui marche. Parce que cette défense, on a bien vu que dès qu'elle était contre une attaque capable, elle prend l'eau, en fait, tout simplement. Au niveau offensif, c'est vrai que c'est un peu... En fait, le problème, c'est que ça me rappelle un peu l'époque Chip Kelly, ou ce genre de mec qui arrive avec un nouveau schéma, enfin nouveau, en tout cas un schéma qui n'est pas vu en NFL depuis un moment, ça marche pendant 6 mois, 7 mois, et une fois que les équipes ont 7 mois de vidéo pour l'analyser, ça devient plus compliqué, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Là, ça a duré un certain temps, mais j'ai l'impression qu'en fin de saison, les équipes avaient quand même trouvé les ajustements, parce que finalement, il fallait défendre ou la passe écran, ou la passe profonde. Le reste n'existait pas, si ce n'est le facteur X, Tyreek Hill, qui t'entend aller capter une balle au milieu de terrain à mi-distance. Mais bon, Tyreek Hill, de toute façon, ça sera un facteur X toute ta vie. Tu peux te préparer autant que tu veux, tu n'arriveras pas à suivre Tyreek Hill tout un match. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. Mais peut-être qu'il y a besoin de quand même d'une autocritique et pas forcément d'une révolution, mais d'une évolution de cette attaque. Oui,
oui, en effet, l'attaque qui va... On verra si elle arrivera à se réinventer. Cette défense, tu l'as dit, on a vu, il y avait beaucoup d'absents, notamment au niveau du pass rush. Bradley Chubb était absent, on le sait, hein, il s'est blessé en toute fin de saison. Jalen Phillips n'était pas là. Van Ginkel n'était pas là. Et on a l'impression que ça s'est vraiment vu. Patrick Mahomes a joué quasiment dans un fauteuil. Les Dolphins ont été obligés, s'ils voulaient mettre la pression, de blitzer. Et Patrick Mahomes a été très bon face au blitz. Il s'est régalé toute l'après-midi, sauf peut-être en zone rouge, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, il a parfaitement découpé cette défense qui n'avait quasiment aucun pass rush pour l'embêter.
Oui, oui, le meilleur défenseur de Dolphins, ça a été Travis Kelce, hein, encore une fois. Hein. Enfin, je veux dire, qui doit coûter à peu près 90 yards et un touchdown à son équipe, mais globalement, écoute, on a retrouvé le Mahomes très calme, on a le Rashi Rice de fin de saison, c'est-à-dire très fiable. Après, oui, tu l'as dit, le seul petit bémol, c'est que passer Rashi Rice et Travis Kelce, il n'y a plus grand monde. Alors, à la course, il n'y a pas Pacheco, mais au niveau des airs, je suis désolé, mais moi, je considère qu'il n'y a plus grand monde. Et qu'arrivé en zone rouge, il se retrouve un peu sans solution. Parce qu'on défend Cassie, on défend Rice, et il n'y a pas autre chose à faire. Donc, c'est un axe de travail, c'est clair, ça a été toute la saison. Ils ont fait beaucoup de yards, ils ont beaucoup avancé. Mine de rien, le fait d'avoir marqué sur 6 possessions différentes, si je ne dis pas de bêtises, ça n'a pas dû leur arriver souvent cette saison. Mais voilà, l'important, c'est de travailler à finition.
Ouais, les Chiefs qui ont dépassé les 409 yards, en tout cas qui ont dépassé les 400 yards pour arriver à 409 yards, mais c'est vrai que voilà, ils ont dû à 4 reprises s'arrêter pour des field goals, justement pour la suite, parce qu'il y aura une suite pour les Chiefs. Est-ce que notre jugement change vis-à-vis de Kansas City? Je vais te donner la réponse pour ma part. J'ai l'impression que c'était presque une semaine pour rien. On les imaginait battre les Dolphins parce qu'ils avaient une grosse défense et parce que l'attaque était capable de faire suffisamment. On les attend surtout contre des équipes qui sont censées être à un niveau un petit peu au-dessus parce que voilà, c'est, les questions sur les Chiefs sont toujours là. On sait qu'ils ont l'expérience et qu'ils peuvent gagner ce genre de match-là, mais est-ce qu'ils sont assez bons et est-ce qu'ils ont assez de talent désormais pour aller battre des Ravens, aller battre des Bills même, voire des équipes de NFC lors d'un éventuel Super Bowl?
On ne va jamais mettre de côté une équipe où il y a Mahomes et Red. Ils peuvent gagner tous les ans. Après, prenons le plus probable. Buffalo gagne face aux Steelers. En tout cas, la logique mathématique, puisque c'est la tête de série numéro 2. Ils vont se retrouver à Buffalo avec un avantage psychologique certain, parce qu'on se souvient tous du match de playoff légendaire, les 13 secondes, blablabla. Mais bon, à Buffalo, face à une équipe qui est en pleine confiance et tout, en effet, ça risque d'être un peu imité. Et même s'ils passent ça, contre l'équipe d'après, ça sera un peu dur. Et je dis l'équipe d'après volontairement, parce qu'on en parlera plus tard dans la semaine, au moment des previews, etc. Mais une équipe qui n'a pas joué depuis 3 semaines, quand bien même soit la meilleure de la Ligue, face à une équipe qui vient de faire le meilleur match de sa saison une semaine avant, ça ne va pas être une promenade de santé pour Baltimore. Mais aujourd'hui, je mets Baltimore et Houston au-dessus de Kansas City.
Bah écoute, comme ça c'est dit. En effet, on verra, comme tu l'as dit, même chose pour Kansas City que pour Houston. Il faut attendre de savoir le résultat de Buffalo et de Pittsburgh. Si Buffalo s'impose, ce sera un déplacement à Buffalo la semaine prochaine. Si les Steelers s'imposent, ce sera la réception de Houston la semaine prochaine. Et pour terminer sur les Dolphins, je l'ai vu passer dans le chat, mais je suis assez d'accord. Pour moi, ce match-là, ces playoffs-là, ils sont éliminés, ils s'éliminent eux-mêmes quasiment en saison régulière. Avec les deux défaites notamment et le fait qu'ils aient lâché, entre guillemets, ils l'ont pas lâché puisque les Bills sont allés la chercher, mais le fait qu'ils étaient devant dans cette AFC Est et qu'ils finalement ils finissent deuxième et qu'ils soient obligés du coup d'aller à Kansas City dans le froid. Un match à domicile face à une équipe, face à des Steelers par exemple, si on les transpose avec les Bills, ça aurait été beaucoup plus facile. Voilà, en tout cas, les deux matchs de playoff qui sont déjà terminés, il en reste 4. Donc, 2 ce dimanche et donc 2 lundi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.